Le soleil est là et il est bien là.
Qu'est-ce que tu veux boire ?
Je prendrai une bière, chérie.
Pour eux, les vacances, c'est le camping ou rien.
C'est chaud, hein ?
Radio Camping Paris.
Indispensable, la table de camping soutient les bouteilles d'apéritif.
On a organisé les glaçons.
Et un de nos soucis numéro un maintenant, c'est mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir ?
Tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Bonsoir et bienvenue pour ce numéro de Radio Camping Paris, l'émission d'été, car oui, nous sommes encore en été malgré la pluie qui tombe, de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous vous proposerons une heure un peu spéciale, puisque l'émission que vous écoutez ce soir a été enregistrée samedi 16 septembre pendant le festival Attention, je prends ma respiration, Terpsichore. Donc nous allons passer une heure avec Skips Sampé, qui est directeur artistique du festival, Olivier Fortin, qui est directeur de l'ensemble musical Masque, Jean-François Brun, qui est facteur de clavecin, Marcel Quilleveré, qui est journaliste à France Musique Espace 2 et bientôt à la RTBF et qui a fait beaucoup de choses, qui nous vient de Bretagne, et Damien Sarassani du site de mécénat participatif Comeon.
Radio Camping Paris, c'est tout l'été du lundi au jeudi de 19h à 20h sur Radio Campus Paris.
Marcel Quilleveré, vous avez vu, pour commencer, les cloches sonnent, c'est assez bon signe. Hein.
Ah, c'est parfait.
Nous sommes là en plein cœur de Paris, nous sommes rue du Mail, à proximité d'un endroit qui s'appelle La Salle et Erard, c'est ça, je crois, ne pas me tromper.
La Salle Erard, et c'est un endroit tellement beau que je ne connaissais pas, moi qui habite Paris, c'est sublime ici.
Et est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Est-ce qu'avec vos mots, vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui nous écoutent
d'abord,
ce qu'ils ne voient pas ?
D'abord, quand on est dans la rue du Mail, on cherche, on ne voit pas, ce n'est pas marqué. Et tout d'un coup, il y a un grand portail et on voit une cour sublime, très longue, et cet immeuble merveilleux où a vécu Franz Liszt quand même pendant de nombreuses années. Et les pianos Erard ont été, j'espère ne pas me tromper, les pianos de prestige au 19e siècle. Pendant tout le 19e siècle, les musiciens, les pianistes se baladaient avec des pianos Erard à travers l'Europe.
Moi, hier, quand je suis arrivé, on m'a dit « Fais attention où tu mets les pieds, Chopin ou Liszt n'ont plus marché ici ». Vous le saviez, ça ? Chopin aussi est venu ici.
Ah, ça non.
Genre, tout le monde est venu ici, visiblement.
Tous les musiciens
du 19e siècle venaient dans cette salle.
J'étais un peu déçu quand même, Christophe, parce que je me disais, je vais voir le théâtre. Eh bien non, le théâtre, on ne peut plus le voir, il est tout là-haut. Et on est dans la salle d'exposition des pianos pour le concert de ce soir.
La salle d'exposition, donc c'était là où on pouvait acheter son piano.
Voilà.
Et c'est là où aujourd'hui Skips Sampé, donc vous organisez ce festival. Donc je vais redire le nom en essayant de ne pas me tromper, Terpsichore. Comment est née l'idée de ce festival, Skip ?
L'idée est née d'un individu parisien qui a trouvé un manque d'espace qui est vraiment consacré, qu'on peut se consacrer à la musique de chambre. Donc, il m'a demandé si la direction d'un festival m'intéressait. J'ai dit non pendant 6 mois pour diverses raisons. Et après, finalement, j'ai dit oui parce qu'entre-temps, on a trouvé avec Olivier Fortin cette salle. C'est pas une salle qui était abandonnée, c'était une salle qui n'était jamais utilisée pour la musique.
C'était devenu quoi, cette salle, vous savez ? C'est pas une question piège, hein, c'est juste une curiosité.
C'est un espace vide, avec un décor très très beau, qui est complètement intact, que les héritiers de Sébastien Erard, qui possède l'hôtel particulier à côté de la place des Victoires, a décidé de louer pour les événements, comme des défilés de mode, des cocktails pour des hommes d'affaires, des réceptions, etc. Mais l'idée de réutiliser cet espace, de faire revivre la musique de chambre dedans, voilà.
Ça lui a tout de suite, lui, quand vous l'avez vu, il a tout de suite été emballé, il a tout de suite dit « banco, on y va, évidemment, il faut qu'on fasse de la musique ici, c'est la vocation du lieu ».
Oui, parce que l'acoustique, il faut admettre que c'était un espèce de showroom pour des pianos Erard et des harpes. D'Erard, etc. Donc Erard a mis ses instruments dans un acoustique flatteur. N'importe quel faiseur d'instruments ou n'importe quel luthier veut absolument que ses instruments soient flattés par un acoustique. Et d'autant plus s'il a fait venir Liszt et Chopin et tous les plus grands pianistes du 19e siècle. Ils étaient logés sur place, ils étaient entretenu, logé, nourri.
La vie d'artiste pouvait avoir des bons côtés donc au 19e siècle, si je vous ai...
Oui, malgré les carrosses pour le transport et tout le reste, quand on est arrivé à destination, on était plus ou moins bien accueillis.
Alors Skip Sampé et Olivier Fortin, je vous remercie particulièrement de venir parce que vous allez jouer dans un peu moins d'une heure. Même si je connais la réponse, je vous pose la question pour les auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on fait une heure avant un concert d'habitude ? Olivier.
Eh ben, en général, on ne fait pas une émission de radio déjà. Donc,
je vous remercie, d'autant plus.
Et c'est très bien.
D'habitude, il n'y a pas la radio qui vient vous embêter au pied de votre salle de concert.
Non, on n'a pas dit ça, mais c'est rare de faire la radio une heure avant le concert. Voilà,
vous avez plutôt besoin de vous concentrer ?
Pas nécessairement.
Des fois, on doit accorder aussi nos instruments. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui accorde pour nous. Jean-François Robin qui accorde pour nous. Mais en général, on doit aussi réviser l'accord. Des fois, ça va jusqu'à 15 minutes avant parce qu'on veut que ça soit parfaitement accordé. Donc, on doit rester sur la scène. Et
donc, vous n'êtes pas comme des sportifs. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer, de refaire la partition dans votre tête en fermant les yeux. Attention, la page 3 et
ça
un truc.
Ça dépend ce qu'on joue. C'est sûr que si on va jouer un concerto de Bach, on ne va pas commencer... Même accordé, ça commence. Il y a des pièces qui sont plus dures que d'autres, on a beaucoup besoin de concentration.
Et vous, Skip Sampé, vous avez des rituels avant d'aller jouer ? Vous avez des habitudes ? Non,
non, visiblement, non. Pas vraiment. Quand je joue un concert en soliste, je suis tout seul, une heure avant le concert, mais quand on joue nombreux, on est tous ensemble une heure avant le concert. Donc, voilà. Et on reste ensemble pour le concert et après aussi.
Et est-ce qu'au fur et à mesure d'une carrière, justement, il y a des rituels qui changent parce qu'on est peut-être plus sûr de soi ou est-ce qu'au contraire, plus ça va, plus c'est compliqué de... À chaque fois, vous avez peut-être plus peur parce que... Bon, par exemple, à chaque fois que je fais de la radio, je ne sais pas si je vais tenir l'heure entière.
Je ne sais pas. J'ai jamais eu des problèmes de trac en général. Je crois qu'avec des problèmes de trac, j'aurais fait un autre métier que musicien professionnel, en fait. Je ne comprends pas comment les musiciens professionnels peuvent vivre avec le trac. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Et j'évite systématiquement, dès le départ, les collègues qui ont le trac. Parce que le fait que je n'ai pas le trac fait trop de confusion d'esprit, en fait.
Jeanne Moreau disait très joliment que les gens qui avaient le trac étaient les gens qui ne pensaient qu'à eux, qu'il ferait mieux de penser au public.
Bah, il faut mieux penser à son collègue, en fait.
Dans la musique ?
Il faut faire confiance dans les facteurs de l'instrument, dans l'instrument même. Il faut vraiment faire une confiance totale autour, parce que c'est une responsabilité collective, un concert ou un disque.
Là, on est à la 4e édition du festival Terpsichore. Est-ce que c'est chaque année plus difficile de faire une programmation originale, puisque vous avez déjà tout joué, ou est-ce qu'au contraire, vous avez au contraire tellement de choses à...
On a assez de musique pour remplir une trentaine de saisons, en fait. Il y a tellement des chefs-d'œuvre connus et inconnus de nos jours qu'on n'a jamais un problème de répertoire, jamais.
Et donc, vous la faites comment, la programmation ? Il y a des gens qui vous appellent en vous disant, qui vous connaissent, carrément, qui vous appellent, qui disent, bon, écoute, Skip, cette année, j'aimerais bien passer. L'année dernière, tu m'as dit que je ne pouvais pas, mais cette année, ou est-ce que vous suivez un petit peu tout ce qui se passe ? Et en fonction de l'actualité, vous choisissez les morceaux ?
La difficulté majeure pour un directeur artistique d'un festival, c'est qu'on ne peut pas inviter tout le monde.
Donc, vous avez plus d'ennemis que d'amis ? Depuis.
difficile à dire. Non, mais ça, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai hésité au départ. Mais en fait, on a décidé de fonder une formule où le festival était entre amis. C'est quelque chose qui est en train de devenir un festival de l'ensemble Capriccio Stravagante et l'ensemble Masque. Parce que même les gens qui jouent avec nous, avec nos ensembles, eux parfois ils ont ses propres ensembles, ou on a des collègues comme le collégien vocal de Gand, de Philippe Hervègue, qui existe déjà depuis plus que 40 ans, ou des gens de Huelgas Ensemble de Paul Van Nevel, et on a vraiment des fidèles. Donc on se pose pas trop de questions sur les interprètes et la sélection d'interprètes. Et après, c'est une discussion de répertoire. Il y a un thème qu'on suit plus ou moins. Et il y a des choses qu'on glisse dans le thématique aussi.
Le festival Terpsichore, je ne vous ai même pas demandé, c'est donc un festival de musique de chant, plutôt de musique ancienne. On peut dire que c'est un festival de musique baroque même ou pas?
Non, parce qu'on fait de la musique gothique et la musique renaissance aussi. Le plus grand besoin en ce moment en musique de chambre, ce n'est pas nécessairement la musique baroque. Il y a un besoin de ça, parce que le monde baroque est envahi par l'opéra. Qui nécessite des fortunes et des semaines et des semaines de travail et des metteurs en scène l'un plus désagréable que l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Peut-être que je ferai un jour, si les circonstances sont favorables, je dirais oui. Mais jusqu'au moment que les circonstances sont favorables, personne ne va me demander de toute manière. C'est comme ça.
This is what the only thing performers have left to do in this day of super recording techniques and super recording artists and super recording engineers. I think that all the basic statements have been made for posterity now. I think what we must do is try to find our way around these things. Try to find a raison d'être that is somehow different and still somehow right.
C'était Glenn, un extrait de Back Off, un album de Nicolas Godin, un des deux membres du groupe R, plus connu pour ses airs électro.
Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Retour à Radio Camping Paris avec une partie de l'équipe du festival Terpsichore. J'ai encore réussi à le dire, mais normalement avant la fin, je vais l'écorcher. D'ailleurs, vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire, Terpsichore? Je crois que c'est une des muses. Hein.
Oui, c'est la muse de la muse de la danse.
Et pourquoi pas de la musique? Vous avez l'esprit de contrariété?
Je ne sais pas, on a décidé de nommer ce truc pour le muse de la danse. Il y a énormément de musique de danse dans la musique baroque. Donc,
C'était juste pour vous taquiner. Là, on vient d'écouter un morceau d'électro inspiré de Bach et on a même entendu à un moment Glenn Gould qui parlait. Est-ce que ce genre de mélange entre musique dite classique et créativité comme ça, électro, très contemporaine, c'est quelque chose que vous pourriez programmer un jour où vous dites qu'il y a suffisamment à faire avec le répertoire classique pour ne pas faire ce genre de singerie?
Bah, je crois que c'est le travail de mes collègues et pas le mien. Mais le crossover et tout ce genre de mélange est quelque chose, en fait. Le crossover a démarré avec Yehudi Menuhin et Ravi Shankar, c'est-à-dire c'était une expérience par un des plus grands violonistes du XXe siècle et le plus grand musicien indien. Et c'était en fait l'idée derrière les premières crossovers de Ravi Shankar et Yehudi Menuhin était en fait de combiner la musique indienne et avec la musique occidentale. Et maintenant, tout le monde fait. Il y a certains qui font avec un grand succès, quelqu'un comme Jordi Savall. Il y a d'autres qui font de façon complètement bidon parce qu'ils trouvent que c'est vendeur.
Et vous pourriez participer à un projet comme ça?
Vous avez déjà contacté? Non, j'ai
pas David Guetta et Skip Sampé, on peut l'imaginer.
Bon, ça dépend du tarif toujours. Hein.
Et donc vous prenez à partir de combien? Non, blague à part. blague à part, vous avez dit que chaque année il y avait un thème à la programmation. On l'a pas dit. Alors quel est le thème cette année?
Le thème c'est violon, viol. Et voix, viol, c'est-à-dire viol de gambe.
Oui, V-I-O-L-E-S, bien sûr.
Voilà.
Mais il vaut mieux le préciser. Et donc c'est des instruments, si j'ai bien compris, qui sont quasiment antérieurs au clavecin, de ce que j'ai lu, c'est ça? C'est un peu l'instrument vedette, et puis le clavecin est arrivé à ce moment-là?
Pas nécessairement. C'est-à-dire que la plupart des instruments, on dit instruments baroques de nos jours, mais en fait les instruments qu'on appelle baroques étaient déjà perfectionnés en 1530, 1540, 1550 et aucun historien de l'art va appeler 1550 baroque. Ça c'est pour un historien de l'art de la Renaissance, quoi. Donc la plupart de ces instruments qu'on traite de baroque étaient vraiment des inventions de l'âge des humanistes Renaissance.
J'ai juste l'esprit d'escalier, pardon, mais Olivier Forta, je ne vous ai pas demandé si vous pourriez aller jouer avec un musicien qui remixerait Bach ou Telemann, ou ça vous intéresserait ou pas? Ou est-ce que vous-même, ça vous intéresserait de le faire?
Ça dépend du musicien, en fait. Ça dépend de ce qu'il me propose. Je ne suis pas tout à fait contre, mais faudrait voir en fait quel genre de...
C'est donc la qualité du projet artistique, de la personne que vous avez en face qui vous intéresse.
Conception à l'arrière qui m'intéresse, quelque chose, un projet qui m'intéresse, mais honnêtement, je vais pas faire ça de mon propre. C'est pas moi qui va chercher à le faire. Si on vient me voir et que le projet est intéressant, voilà.
Alors, Skip Sampé et Olivier Fortin, je crois, à ne pas dire de bêtises, vous êtes tous les deux clavecinistes et on a à côté de vous donc Jean-François Brun, qui est un homme indispensable pour vous, puisque vous êtes facteur de clavecin. Alors, facteur de clavecin, c'est quelqu'un qui fabrique les clavecins. Alors, la première chose qui m'a surpris, c'est est-ce qu'on fabrique encore aujourd'hui des clavecins ou est-ce que vous restaurez des vieux clavecins?
Les deux. On fabrique beaucoup plus de nouveaux clavecins copiés sur les anciens qu'on ne restaure d'anciens clavecins, tout simplement parce que les anciens clavecins sont plutôt rares et sont dans les musées et généralement hors d'état de jeu. Donc on préfère les conserver dans cet état pour mémoire.
Donc vous, quand vous fabriquez un... Je sais pas, imaginons, je joue du clavecin, je viens voir, je dis, je veux un clavecin, vous allez me demander quoi? La taille de ma salle à manger? Pour savoir si je pourrais le mettre, qu'est-ce qui vous intéresse?
Non, je commencerai par vous demander qu'est-ce que vous aimez jouer. Parce qu'il y a une telle diversité d'instruments dans le 16e, 17e, 18e siècle que c'est ce choix-là qui est crucial quand on veut choisir un instrument.
C'est-à-dire quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand-chose, qui appelle clavecin quelque chose qui en fait regroupe une grande variété d'instruments?
Oui, c'est-à-dire que c'est en fait... C'est une variante sur la guitare mécanisée, si on veut. Donc il y a des instruments de toute forme, de toute taille, et destinés à toutes sortes de musiques qui ont leurs nuances.
Et on a encore aujourd'hui tous les matériaux nécessaires, par exemple?
Presque. Ce qui nous manque surtout, c'est les cordes, hein, parce que c'est du métal ou du boyau. Alors dans le cas du boyau, par exemple, on a perdu les secrets de fabrication, ce qui fait que c'est très difficile de fabriquer des clavecins cordés en boyau.
Donc c'est des boyaux d'animaux. Hein.
Oui, comme les boyaux de raquettes de tennis autrefois. Mais on a beaucoup ont fait des essais. Certains y parviennent, d'autres moins. Et généralement, on n'est pas tout à fait convaincu. On pense que c'est parce que on a plus ce qu'il faut. On a plus les bons moutons, voilà.
On a plus les bons moutons.
Bah oui.
Et à l'inverse, la partie en bois, là, ce que j'appellerais le caisson, ça, on fait toujours avec la même matière. On sait d'où il venait.
Oui. Ça, on sait tout. Les arbres n'ont pas tant changé que ça. Certaines fois, c'est un peu capricieux parce que, par exemple, dans le cas des virginales anglais, ils étaient faits avec du sapin qui était chargé aux États-Unis, enfin en Amérique, disait-on, pour servir de ballast aux bateaux. Donc là, une fois qu'ils ont passé un séjour en mer, plusieurs siècles par-dessus, on ne sait plus trop exactement de quel bois il s'agit. Mais sinon, en ce qui concerne les bois européens, bien sûr, peupliers, épicéas, chênes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, buis, cyprès.
Et vous savez... Forcément. Ben, est-ce que vous savez quand votre clavecin sonne bien, c'est-à-dire qu'est-ce qui sonne comme à l'époque, comment vous faites pour le savoir ?
Comme à l'époque, on n'en sait rien parce que le bois change au fur et à mesure du temps et donc on n'a pas une idée absolument parfaite et exacte du son que ça pouvait avoir. Par contre, ce qui me dit qu'un instrument est bon, c'est quand les musiciens le disent.
Vous n'avez pas d'idée préconçue, vous faites par rapport à ce qu'on vous demande.
Si, j'ai mon idée préconçue. Et pour moi, je finis par avoir un idéal de son. Et l'idéal de mon son, c'est un verre en cristal qu'on casse sur une dalle de pierre, dans une église.
Ah, c'est ça le bon son d'un clavecin.
Ça a une sorte d'écho. Et quand je trouve des instruments qui ont ce son-là, là, vraiment, je suis satisfait. Par contre, d'autres fois, et c'est le cas demain par exemple avec Bertrand Cullier, on a ici un instrument que Bertrand a expressément choisi pour faire son concert. Il adore cet instrument et moi je le déteste. Alors, Mais parfois on est d'accord complètement sur d'autres instruments.
Parce qu'il ne sonne pas justement comme un verre de cristal qui tombe sur un sol de pierre dans une église gothique.
Pour moi, il sonne comme du fil de fer sur du carton mouillé. On peut aimer ça peut-être. Je sais pas.
Et est-ce qu'au fil du temps, le son qu'on attend d'un clavecin a varié? Est-ce qu'on trouvait avant un joli son, aujourd'hui, me paraîtrait, comme vous dites, du fil de fer. Est-ce qu'il y a des modes, finalement, dans le son qu'on apprécie ?
Des modes ?
Dans la musicalité qu'on attend, dans...
Vous voulez dire des goûts à certains moments et,
voilà,
et des,
exactement. Moi, oui.
Des affections à d'autres.
Oui. Oui, pendant une quarantaine d'années, le clavecin de concert est un modèle 18e siècle parisien qui n'est pas vraiment le son ou le toucher ou l'allure d'un instrument du 17e ou du 16e siècle italien, par exemple, ou flamand. Ce n'est pas la même chose.
Et ça, vous savez ça comment ? Parce que moi, j'ai lu là, le petit livret... du disque que vous ressortez à cette occasion, qui est de vous skipsamper avec votre ensemble Capriccio Stravagante de William Byrne, où vous expliquez ça justement, vous dites qu'il y a plusieurs sonorités. Vous savez que les clavecins italiens ne sonnaient pas comme les clavecins français.
Oui, exactement. C'est 200. Comment on explique ? C'est 200.
De nature différente, parce que la construction de l'instrument est différente. Ouais. Les acoustiques étaient probablement différentes. Et puis, on parle français d'un côté, italien de l'autre. Ça génère aussi des modèles sonores différents. Et ainsi que les bois. On construit tout en cyprès quasiment en Italie. Et on construit en épicéa, en peuplier en France.
Alors, avant que je vous libère, Jean-François Brun, justement pour aller faire la deuxième partie de votre métier, qui est d'accorder un clavecin, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous allez faire là dans les minutes qui viennent ?
Le mot décrit très exactement accord, c'est-à-dire mettre les cordes en accord les unes avec les autres, suivant une échelle qui est celle de l'échelle occidentale, en l'occurrence l'échelle ancienne, qui est une échelle un peu différente de celle qu'on entend sur un grand piano à queue aujourd'hui.
Mais ça veut dire que...
C'est difficile à expliquer en 30 secondes.
Ouais. la répartition des intervalles, c'est pas exactement la même chose que sur le clavier moderne.
Si vous voulez, quand vous entendez une cornemuse, on a l'impression...
Déjà, je m'en fais en général quand j'entends une cornemuse.
Bon, voilà. On a l'impression que c'est faux, une cornemuse. Souvent, on dit c'est faux. Ben, c'est pas faux du tout. C'est accordé plutôt comme étaient les instruments au 17e, 18e siècle.
Ouais, donc, il y a toujours cette recherche aujourd'hui de retrouver ce que pouvait être le son à l'époque. Il y a une volonté...
Oui, parce que toute la démarche de la musique ancienne, c'est de se dire... par quels moyens arriverait-on le mieux que possible à rendre cette musique ? Donc la réponse était immédiate, c'est en retrouvant les instruments et de manière la plus exacte aussi, leur accord, leur réglage et leur façon de jouer.
Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, mais On voit par exemple en littérature qu'on retraduit certains chefs-d'œuvre du 19e siècle, je pense à Dostoïevski qui a été retraduit, donc on ne lit plus de la même façon. Est-ce qu'en musique il y a la même chose? Est-ce qu'on ou dans la manière dont on accorde les instruments, on a retraduit finalement la manière classique dont on interprétait avant ces partitions?
Oui, de toute manière, la musique est un langage. Et un langage qu'on comprend, on n'a pas besoin de traduction, mais un langage qu'on ne comprend pas a toujours besoin d'une traduction. Et mieux est le traducteur, mieux est la traduction, en fait.
Donc là, actuellement, vous, par exemple, vous travaillez en permanence à mieux traduire les œuvres?
Oui, c'est exactement ça, c'est un travail d'interprète. Interprète, c'est un mot qui glorifie un tout petit peu l'idée d'un traducteur.
Marcel, qui est verré, vous justement, vous avez, je fais appel à vous.
Je ne suis pas aussi savant que ces messieurs.
Mais hein. Si, vous êtes un amateur et très très éclairé. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer ce que... Alors, il ne va pas écouter ce qu'il s'en fait, il va pas écouter. Ce qu'il a apporté justement, la manière dont il interprète cette musique-là?
Moi, Skip, quand je l'ai connu et que j'ai entendu en concert, ce qui m'a plu, c'est que je trouve que c'est un humaniste de la musique dans la manière, par exemple, dont il dirige un orchestre. Ça, j'aimerais bien qu'il nous en parle un peu. Parce qu'il disait, mais moi, finalement, je ne dirige pas, je donne des impulsions, on se connaît tous. Finalement, qu'est-ce que tu en penses, Skip?
De toute manière...
Faites attention, Olivier Fortin travaille avec vous, il va pouvoir dire après si c'est vrai ou pas.
Un ensemble qui travaille ensemble pendant un fil d'années, pendant très longtemps, se traite de famille, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses qui se discutent plus, en fait. C'est un style maison, plutôt. Notre style maison est quelque chose qui est maintenant mondialement connu, mais ça a pris presque 35 ans, de toute manière.
Et vous définiriez comment ce style maison?
C'est un style qui n'a rien à voir avec l'idée de sortir d'un conservatoire dans n'importe quel pays du monde et faire un impact automatiquement. En faisant un site web, etc. C'est pas le site web qui donne le ton de la qualité musicale d'un ensemble. Il y a beaucoup d'ensembles en ce moment, il y a même trop. Il n'y a pas la place pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a vraiment, choisir la musique comme métier, c'est comme choisir n'importe quel autre métier. À un moment donné, il faut qu'on se demande très jeune si on est vraiment approprié à ce métier. Voilà, parce que, comme il m'a dit il y a quelques semaines, notre ami Jordi Savall, la musique, c'est pas du travail. Lui, il estime que la musique, c'est pas le travail. Ce qu'il est le travail, c'est la régie, les aéroports, la sécurité dans les aéroports, les hôtels qui ont rien compris de combien de chambres doublées, combien de chambres simples, ce genre de choses, les feuilles de route, l'administration. Bon, voilà. C'est ça qu'il y a du travail. Mais je suis d'accord avec Jordi Savall que la musique en soi n'est pas du travail. C'est trop de plaisir.
Ça doit d'abord être un plaisir. Si ça devient du travail, il faut arrêter, quoi.
Oui. Oui, probablement.
Je ne vais pas vous demander, vous aussi, de noter et de donner votre avis. Mais que la manière dont vous travaillez avec les accordeurs, elle est différente d'un accordeur à un autre? Il y en a avec lesquels on s'entend mieux? Il y en a...
Je ne vais pas vous mettre mal avec
Jean-François Brun.
Il y a des gens... Un accordeur, c'est aussi un musicien. C'est-à-dire qu'aussi avec les musiciens, il y a certains musiciens qui entendent mieux que d'autres musiciens, c'est-à-dire ils ont une finesse de traduction d'informations pour les accords, pour les coups d'archet, pour les doigtés, tout cette espèce de cuisine qui fait le métier total, quoi.
Olivier Fortin, vous dirigez vous-même un ensemble Masque. C'est quand vous jouez avec quelqu'un comme Skip Sambre, c'est difficile de ne plus être le chef?
Non, et je ne parle pas du tout.
C'est peut-être reposant d'ailleurs.
En fait, je ne sens pas comme un chef. Il y a des chefs que je ne peux pas sentir, des gens qui sont à l'avant de l'orchestre, que voilà, c'est pas quelque chose que j'aime. En fait, moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec un chef. J'ai travaillé beaucoup avec un orchestre au Canada, et le premier violon était le chef. Skip dirige en général aussi du clavecin, ou lorsqu'il dirige, il laisse les gens très libres. Donc, c'est pas quelque chose qui me pèse du tout. Et on fait la même chose, hein. Je le connais depuis 20 ans, Skip, donc ça fait assez longtemps. Et moi, dans mon ensemble, c'est la même chose. On est très libre de laisser les musiciens s'exprimer. Et je pense que c'est un truc qu'on a en commun.
Eh bien, on va l'écouter, justement. Malheureusement, on ne peut pas l'écouter en entier, mais c'est un extrait du CD que vous avez enregistré, Skip Sampé, avec votre ensemble, pardon, Capriccio Stravagos. Voilà, c'était le moment où je vais... Voilà, Capriccio Stravagante. Et c'est donc du William Byrd, dont nous venons d'écouter la Fantasia à 6. Un programme autour de ce compositeur sera proposé dans le cadre du festival au Temple de Panthémon, rue de Grenelle, et ce sera jeudi 28 septembre à 20h30. Et on vous conseille d'y aller, parce que c'est vraiment très beau.
Radio Campus. Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Alors depuis tout à l'heure, on parle de musique avec Skip Scrampé. On est en direct, enfin on n'est pas en direct, on est samedi 16 septembre. Il commence à faire froid et c'est le festival Terpsichore. Et donc ce que je vais vous demander, Olivier Fortin, vous êtes canadien, Skip Scrampé, c'est pas un secret, vous êtes américain. Je pense à William Christie qui est aussi américain. Comment vous expliquez que toutes les figures majeures de cette musique ne soient pas européennes finalement, enfin, qu'il y en ait beaucoup qui ne sont pas européennes. Et quand on vous écoute, on sent que vous n'avez pas une approche européenne de la musique, Skip Scrampé.
On ne peut pas expliquer pourquoi quelqu'un, un Américain ou un Canadien existe dans cette musique. Quelqu'un comme William Christie.
Mais peut-être parce que vous étiez libéré des académies européennes qui étaient très lourdes, je ne sais pas.
On était tous formés aux États-Unis. William Christie était formé aux États-Unis, il n'était pas du tout formé en Europe. Olivier et moi, on était formés et aux États-Unis et en Europe. Moi, je n'étais pas formé en France, par exemple. Je n'étais jamais à Paris ou à Lyon ou aux Arts Florissants, qui est la formation classique de la musique baroque en France pendant les dernières trois décennies. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en fait.
Ce n'est pas grave, c'est qu'elle ne devait pas être intéressante.
Non, Olivier, c'est Fortin. Un mystère. C'est un mystère.
Ce n'est pas tous les grands qui viennent des États-Unis. Vous avez dit ça, mais en fait, je pense qu'il y a des gens aussi qui viennent un peu partout en Europe. C'est vrai que nous, on n'a pas été... moi non plus, je n'ai pas étudié à Paris ou en France. J'ai étudié aux Pays-Bas, comme Skip, et j'ai étudié à Montréal, qui était une espèce d'îlot francophone, vous savez... le Québec au Canada. Et je crois qu'il y a un style aussi assez particulier, le fait d'avoir évolué dans un milieu un peu reclus, toujours en contact avec l'Europe, mais je pense que moi, j'ai quelque chose qui vient de Montréal, du fait que j'étais sur une espèce de Gaulois irréductible. Là,
c'est irréductible, oui. Voilà.
Mais Montréal, c'est aussi un espèce d'îlot de la Hollande, parce que la plupart des gens de la...
Dites
de
ça
la...
des Français, vous allez avoir des problèmes.
En renseignement de musique ancienne. Parce que la version, la génération le plus vieux à Montréal est la génération des musiciens qui étaient formés par, dans l'esprit d'Arnoncourt ou le Concertus Musicus Wien ou Leonhardt et le Leonhardt Consort ou les Kauken, c'est-à-dire cette tradition en Hollande autour d'Amsterdam, La Haye, etc. Et moi, j'étais aussi formé quand j'étais très jeune par une femme flûtiste à bec qui était un élève à Frans Bruggen. Donc, j'étais complètement dans le goût de la musique ancienne hollandaise, même avant d'arriver en Europe.
Là, on vient d'entendre un extrait de William Byrd, donc, que vous allez mettre à l'honneur, je rappelle, le 18 septembre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ce musicien-là, particulièrement William Byrd? Pour une histoire d'ailleurs très intéressante, le peu que j'en ai découvert en préparant l'émission. Donc un anglican qui jouait de la musique en cachette parce que c'était de la musique catholique, c'est ça, hein?
Oui, exactement. Byrd était catholique dans l'Angleterre protestante. Donc sa musique religieuse était donnée dans les maisons et en cachette, en fait. C'est ça.
Et qu'est-ce qui vous intéresse chez ce musicien-là?
En fait, pour un claveciniste, il y a une espèce de bible de la musique anglaise et aussi continentale, fin 16e et début du 17e siècle, qui s'appelle le Fitzwilliam Virginal Book. Et dans ce livre, on voit pas mal de musique, des pavanes, des galliards, des danses, des variations de la musique polyphonique de William Byrd. Donc j'ai commencé à jouer cette musique à l'âge de 10 ans ou 11 ans ou 12 ans, parce qu'en fait, ce livre était toujours disponible depuis les années 60, parce qu'un des problèmes dans la musique ancienne, c'est la disponibilité des partitions. On trouve tout le Bach, tout le Mozart, tout le Schumann, tout le Chopin, etc., mais on ne trouve pas nécessairement tout le Monteverdi, tout le Josquin des Prés, tout le William Byrd.
Et j'ai cru comprendre qu'en plus, cette musique, quand on retrouve les partitions, il faut les retranscrire, elles ne sont pas directement utilisables.
Il y a les deux. Il y a, pendant 30 ans, il y a énormément de facsimilés qui étaient produits par les éditeurs partout dans le monde. Et il y a aussi les éditions modernes de toute cette musique. Le Fitzwilliam Virginal Book, qui couvre quoi, 600 pages de musique ou quelque chose comme ça, était déjà transcrit à la toute fin du 19e siècle.
Olivier Fortin, par exemple, c'est-à-dire que vous recherchez régulièrement des partitions pour découvrir des choses nouvelles?
Oui.
Vous passez votre temps en bibliothèque?
en bibliothèque, en ligne, aussi même pas mal de choses qui sont scannées maintenant. Et c'est vrai, il y a quelques années, j'ai redécouvert un compositeur qui était complètement, je dirais pas complètement connu, mais presque. Et je l'ai réenregistré, je l'ai retranscrit aussi, comme vous dites.
Parce que là, j'imagine que dans ces cas-là, il faut aussi le retranscrire pour tous les instruments, voilà. Et réussir à créer des harmonies, retrouver les harmonies d'origine.
Non, retranscrire. En fait, c'était, par exemple, c'est une partition, par exemple, qui est écrite, mais parfois pas très lisible. Et vous devez la retranscrire dans, vous savez, juste avec une typographie moderne. Tout simplement. Donc, mais en général, la musique, on n'a pas besoin, on n'y rajoute rien. Hein. C'est très beau. Si on joue bien, et si tout le monde joue bien, ça devient très beau tout de suite.
Alors, autre musicien à l'honneur cette année, c'est Telemann, un compositeur allemand du 18e siècle dont on fête le 250e anniversaire de la mort. J'ai réalisé qu'on fêtait aussi le 450e anniversaire de la naissance de Monteverdi. J'espère ne pas me tromper, c'est ça. Et je voulais juste vous demander pourquoi Telemann, qu'est-ce qu'il a apporté dans l'histoire de la musique? C'est un des plus grands. Ah, c'est donc le spécialiste. On me fait un petit clin d'œil. Olivier Fortin, pour Telemann, qu'est-ce qu'il a de particulier, si vous deviez. Outre qu'il est très, très prolifique.
Nous, on en a profité avec mon ensemble pour enregistrer un disque de Telemann cette année parce que justement, on a trouvé, bon, déjà, c'était le 250e anniversaire de sa mort, mais d'autre part, c'est un compositeur qu'on a peut-être maltraité, qu'on a très mal joué. On a essayé de faire quelque chose d'un peu sérieux alors que c'était un homme qui avait une grande culture et très, très ouvert au monde qui l'entourait. Et de retrouver chez ce compositeur ce côté à la fois assez génial et qui avait aussi un côté humain.
Je rappelle qu'on est donc à la salle Erard, que dans maintenant 45 minutes, vous allez aller jouer, donc je ne vais pas tarder à vous libérer. Je voulais juste vous poser une dernière question. Toute cette musique-là qu'on va écouter, on s'habille bien, certains s'habillent bien, moi pas tellement, pour aller l'écouter, on écoute ça de façon très solennelle. Aujourd'hui, on est assis, on fait surtout pas de bruit. Est-ce qu'on sait si c'était finalement une musique de divertissement? Moi, je me demandais si finalement cette musique-là, peut-être finalement une sorte de musique, oui, pour se divertir, peut-être même pour danser, alors qu'aujourd'hui, on l'écoute de façon très solennelle.
De toute manière, il y a énormément de musique savante qui était écrite, par exemple, pour l'Église. Donc, ça, c'est automatique.
La musique sacrée, c'est autre chose. C'est vraiment la profane.
C'est autre chose. Ouais. Mais en musique profane, c'était une musique de divertissement, une musique pour s'enrichir, pour développer un goût en matière, des œuvres de Bach qui étaient destinées à ses élèves, les gens pour peaufiner et perfectionner son jeu pour le clavicorde, le clavecin.
Et pour partager,
etc.
Un plaisir toujours, c'est toujours la musique qui était faite soit un plaisir intellectuel, soit un plaisir d'élévation, ou un plaisir de. Mais c'est toujours un partage avec le public, donc c'est quand même une musique qui était faite pour être entendue. Et c'était pas, je crois que c'était pas toujours si solennel qu'on pense.
Et vous, parfois, quand vous la jouez, vous imaginez ce qui se passe? Est-ce que comment on la recevait à cette époque-là?
Non.
Quand vous regardez, vous n'avez pas le temps peut-être à ce moment-là.
Comment on la reçoit aujourd'hui pour moi? Mais je vais pas penser à non. Je trouve
mais
que c'est
peut-être
pas très utile. Non, je trouve que c'est bizarre. Mais non, moi je joue pour les gens qui sont dans la salle là aujourd'hui. Effectivement, on peut rechercher des effets acoustiques en disant on avait dans telle église, telle. Mais sinon, je n'en
pas. Ça veut dire que vous allez par exemple parfois dans des églises, quand vous allez dans une église, vous vous dites tiens, là on a joué ça,
oui.
Ça devait sonner comme ça, ça
si vous savez,
c'est votre réflexe.
Oui, ça c'est émouvant.
Bon, bah écoutez, on va écouter un peu de musique d'aujourd'hui qui est peut-être un peu moins harmonieuse, mais qui est celle avec laquelle aujourd'hui, il y a quelques années, on s'amusait. Merci en tout cas à vous deux, bon concert ce soir, et merci de nous avoir reçus dans ces conditions particulières pour vous. Merci beaucoup.
Bon.
Cause everyone knows that's how you get famous. Look at the sun.
Ce bonbon acidulé, vous l'aurez reconnu, c'est Lily Allen et son très pop The Fear. Donc si j'ai bien compris, c'est une sorte de Téléman d'aujourd'hui.
Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Non, je ne donnerai pas mon adresse au méloman mécontent. C'était une petite blague, comme ça. Marcel Quillerverré, vous êtes... c'est pas le bon nom ? Marcel Quillerverré. Justement, juste pendant que le disque passait, vous parliez du rapport entre la musique qu'on entend aujourd'hui, donc ce soir au concert. Je rappelle qu'on est en train d'enregistrer. Nous sommes le samedi 16 septembre et que c'est le festival Terpsichore, qui est un festival dont la direction artistique est assurée par Skip Sampé. Et donc, vous assistiez sur le lien entre la musique et la danse.
Et oui, dans cette musique du XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait toujours de la danse. Chez Bach, par exemple, toutes les suites, c'est des suites de danse. Il y a des chaconnes, des pavanes, des sarabandes. D'ailleurs, entre parenthèses, savez-vous d'où vient la chaconne ?
Non.
Mexique.
Ah oui ? Donc la musique était déjà mondialisée, en fait. Il y avait déjà des tubes mondiaux.
Vous lisez Cervantes, les nouvelles exemplaires...
On va dire quand même que vous avez produit, on peut le dire, pour France Culture cet été, une série...
Non, France Musique.
Pardon, pour France Musique, une série sur la musique cubaine. Et vous en préparez une sur la musique argentine.
Argentine. Voilà. Non, mais par exemple, si vous lisez Cervantes, c'est comme ça qu'on a su ça. Il y a un moment, un personnage dans la conversation des chiens, dans ces nouvelles exemplaires, qui dit « La chaconne, cette mulâtresse venue d'Amérique ». C'est là qu'on et on a fait des recherches, effectivement. Et la sarabande aussi, ça vient du Mexique. Sans doute du Mexique, mais en tout cas d'Amérique latine.
Et on sait qu'à l'époque, cette musique plutôt joyeuse donc est devenue une musique sérieuse qu'on écoute de façon un peu ankylosée.
À l'époque, c'était des musiques populaires. Hein. C'était évidemment des musiques du peuple.
Quoi Bach, par exemple, non,
elles sont arrivées en Europe.
Ah oui, pardon, vous parlez de la chaconne.
La chaconne ou la sarabande, vous me posiez quelle question, je n'ai pas compris.
Non, mais ce n'est pas grave. je vous demandais à quel moment la musique baroque dont on parle, des musiques comme Bird ou comme Telemann, qui sont donc des musiques plutôt de danse ou peut-être de cours, sont devenues...
Hier soir...
À quel moment on s'est ankylosé avec ça ? À quel moment on s'est mis à...
C'est drôle parce que c'est arrivé assez tard. Même dans la musique de la première moitié du XXe siècle, il y avait toujours de la danse encore. Si vous écoutez Poulenc, qui s'inspirait tout le temps de la danse. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est l'école de Vienne. Pourtant, eux aussi se sont inspirés de la danse au début. Mais après, c'est devenu extrêmement intellectuel. Et ça s'est un peu séparé finalement de la musique populaire, et c'est un peu dommage.
Donc vous diriez que la musique contemporaine est plus cérébrale et
plus
moins physique.
Je trouve, oui, absolument.
Vous, je continue avec vous. Comment, quand vous avez appris que ce festival existait, vous êtes dit c'est super, ça n'existait pas. Vous ne devez pas dire c'est super, c'est pas votre genre. C'est formidable, c'est formidable. Enfin, ce festival que tout le monde attendait à Paris, c'est...
Mais je crois que ça vient de Skip. C'est quand je l'ai vu diriger l'orchestre et que... Moi, j'étais directeur d'opéra. Alors, les chefs, je les connais.
À Genève.
À Genève, avec René Auffant. Les chefs, je les connais. Il y a des chefs, vraiment, c'est insupportable de voir comment ils sont dirigistes. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'âme. Avec Skip, c'était évident qu'avec ses musiciens, c'est une espèce de petite famille, comme il a expliqué. Il n'y a pas besoin de diriger, sinon de parler ensemble au début. Tiens, ça serait bien qu'on imagine ça comme ça. Je suis devant vous pour que les choses soient à peu près ensemble. Mais c'est l'imagination de tous qui fait que cette musique jaillit naturellement. Et je peux vous dire que dans le public, ça marche. On est complètement pris.
Donc là, dans une demi-heure, il va se passer quelque chose. C'est bien dommage pour les gens qui nous écoutent.
Le premier concert de Terpsichore avec un flûtiste tout seul et un danseur, c'était fabuleux.
Et qui croirait qu'un flûtiste, ça peut être fabuleux ? Mais je suis d'accord avec vous, c'était fabuleux.
On n'en revenait pas les uns et les autres.
On a tout joué de la flûte à l'école mal, et on s'aperçoit qu'on peut jouer magnifiquement de la flûte et faire un programme d'une heure passionnant, magnifique, varié.
Avec un danseur qui nous a montré que la danse baroque aussi, elle n'était pas loin de la danse d'aujourd'hui, chez nos jeunes d'aujourd'hui.
Damien Saraceni, donc vous travaillez pour le site Comeon, qui est un site de mécénat participatif, et je voulais vous demander quel avait été votre... Oui, on commence à avoir très froid. On a fait l'émission en plein air, on est fou à Radio Campus Paris.
Quel cadre, disons-le pour les auditeurs,
certes,
c'est sublime.
Magnifique.
Venez rue du Mail voir la cour de Erard.
Oui. Donc Damien Saraceni, Comeon, quel est votre rôle sur cet événement et à quoi vous avez servi finalement ? Enfin, pas vous, hein, mais votre société.
Alors, Coméon, c'est une plateforme qui encourage le mécénat participatif. Donc, c'est la plateforme du mécénat participatif. Qu'est-ce que c'est que le mécénat participatif? En fait, l'objectif, c'est de rendre le mécénat accessible à tous, à la fois pour des donateurs qui ne penseraient pas forcément qu'ils pourraient soutenir des projets d'intérêt général qui les intéressent, et également pour accompagner des structures qui sont d'intérêt général, donc qu'elles soient culturelles ou dans le milieu social, dans l'enseignement, dans l'environnement. Donc voilà, la plateforme met en fait en relation des personnes qui sont intéressées par certaines thématiques comme la musique baroque, et nous, de notre côté, on accompagne les porteurs de projets pour les aider justement à mettre en place des campagnes ou des programmes annuels de mécénat, mais pour atteindre en fait un grand public et permettre aux gens de devenir un petit peu plus acteur plutôt que spectateur.
Vous voulez sélectionner un petit peu les projets que vous soutenez, parce que quand même j'ai vu, vous avez participé à la restauration du monument de montagne au musée d'Aquitaine. Mm-hmm. Vous êtes plutôt par exemple, vous prenez des contributions pour le mur végétal du musée des Arts Premiers. C'est quand même plutôt des choses qui sont en lien avec la culture. Si j'ai envie d'aller faire le tour du monde en patinette, ça vous intéresse pas?
Alors voilà, non, effectivement, toutes les structures qui sont sur Coméon sont des structures reconnues d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de, qu'elles ont une gestion désintéressée, qu'elles n'ont pas de but lucratif et qu'elles ont effectivement un objectif d'enrichissement de la communauté, donc dans le milieu culturel, comme vous l'avez dit, mais ça peut aussi être voilà, dans le milieu solidaire. Donc on a beaucoup d'associations, on a beaucoup d'établissements publics, de fonds de dotation ou de fondations.
Si jeune, moi, par exemple, je peux donner à partir de combien? Je peux donner 5 euros ou y a
À
un
partir de 1 euro, on peut être mécène. C'est effectivement, on ne le sait pas forcément en France, mais le moindre don, en fait, dès qu'il est fait à une de ces structures, peut bénéficier des avantages du mécénat.
Et est-ce qu'on a quelques intérêts, pardon, à le faire sous forme? J'imagine, pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu jeunes, sous forme de déduction d'impôts qu'ils ne paient pas encore, mais un jour ils comprendront.
Ouais.
Ou est-ce que même on peut avoir accès plus, je sais pas, les gens qui ont participé au financement de ce festival, est-ce qu'ils ont accès privilégié, ils ont une visite en plus?
Tout à fait. Le but, en fait, quand on propose à des personnes de participer en tant que donateur ou mécène à un projet, c'est de leur faire franchir un petit peu, de leur faire traverser de l'autre côté du décor, pour passer justement, comme je le disais tout à l'heure, de la fonction de simple spectateur, ce qui est déjà très beau dans des événements comme celui-ci, à plutôt acteur pour avoir des rencontres, pour essayer de comprendre un petit peu comment le projet se construit et d'arriver justement, d'avoir accès à des contenus un petit peu plus privilégiés selon les différents projets.
Alors justement, Marcel Kierveret, on va profiter de votre expertise. Vous avez dirigé un opéra. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles formes de financement de la production d'événements comme ça? Ça vous...
Ah bah, c'est no... Moi, j'ai été donc à la direction à Genève, au Grand Théâtre de Genève. Automatiquement, nous devions trouver chaque saison 20% minimum d'argent privé. Ce n'était pas le cas à l'époque en France. Et il fallait le trouver. Et on le trouvait dans des tas d'endroits. Et c'était formidable. On a fait des productions avec de l'argent d'une banque, je ne vais pas la citer, où il y a eu un investissement artistique de la part de tout le monde, avec la ville de Genève, évidemment, qui est le bailleur de fonds le plus important.
En moyenne, Damien, pardon, j'ai oublié votre nom, Damien Saracini, les gens donnent combien?
Alors, ça peut être très variable selon les différentes typologies de projets. Sur la plateforme, on a un don moyen qui est plus élevé que sur le financement participatif, on va dire, de particuliers. On est autour de 125 euros parce que, justement, il y a les avantages fiscaux qui permettent de déduire les 66% du don. Donc c'est...
Mais ça devrait inspirer des opéras, justement, en France.
Ouais. Vous trouvez que le public participe pas assez aujourd'hui?
Non,
et que ça créerait un rapport plus fort?
Je trouve, oui. Mmh. Je ne connaissais pas votre société. Moi, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas.
Eh bien, écoutez, je vous libère. Là, on est en train tous d'être congelés, donc je vous remercie d'être venus. Je rappelle qu'on était en direct. Vous venez d'écouter Radio Camping, la matinale d'été de Radio Campus Paris, aujourd'hui présentée par Christophe et réalisée par l'indispensable Antonin et son studio mobile magique. Merci à tous nos invités d'être venus. Vous pourrez retrouver l'émission sur le site internet de radiocampusparis.org à la rubrique Radio Camping. Avant de me quitter, je voudrais vous remercier. C'est mon moment, Michel Drucker. Outre tous nos invités d'être venus ce soir, plusieurs personnes. Tout d'abord, Sylvie Alex d'Empreinte, qui a été une cheville ouvrière indispensable pour organiser cette émission, qui n'aurait pas pu se faire sans sa patience ni son calme que je lui envie chaque jour un peu plus. Merci ensuite à Elsa, Christophe et Hugolin de Radio Campus Paris, qui ont dit banco quand on leur a dit qu'on allait faire une émission sur un festival de musique baroque dans Paris et qui ont mis à disposition tout leur savoir-faire. Enfin, merci à Antonin encore une fois, Malo et Simon qui m'ont accompagné personnellement pour cette première Hors les Murs. que j'ai un peu hésité à faire. Demain à 19h, rendez-vous avec un nouveau numéro de Radio Campus Paris, Radio Camping Paris, qui sera sûrement plus classique, mais tout aussi musical. Merci beaucoup.